RFI, 7h30 à Paris et Khartoum, 6h30 à Kinshasa.
RFI Matin.
L'heure du journal. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Andréane et bonjour à vous qui nous écoutez.
À la une, le feuilleton Kabila se poursuit en RDC.
L'ancien président est désormais visé par des poursuites judiciaires et son parti est suspendu pour ses liens présumés avec le M23. Une décision arbitraire, nous dira l'un des cadres du PPRD. Se dirige-t-on vers la fin de 7 ans de tension dans le Tibesti ? Un accord a en tout cas été signé hier au Tchad entre le gouvernement et le comité d'autodéfense de Miski. Dans ce journal aussi, l'emploi des jeunes au cœur des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Reportage à la plage de Libreville où l'on fêtait Pâques en famille hier. Clap de fin tout en émotion pour le FEMUA en Côte d'Ivoire, on sera sur place. Et puis les sports, juste après ce journal, et Mo Salah et ses compères de Liverpool qui se rapprochent du titre en Angleterre. Après son retour au pays, le temps des sanctions en RDC. Joseph Kabila est désormais visé par des poursuites judiciaires quelques jours après son passage à Goma. Son parti, le PPRD, est également suspendu par le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement accuse l'ancien président de haute trahison et de complaisance vis-à-vis du M23 soutenu par le Rwanda. Ce matin, les réactions s'enchaînent. Écoutez celle de Ferdinand Kambere, il est le secrétaire permanent adjoint du PPRD.
Une mesure arbitraire digne des régimes totalitaires de triste mémoire. Et puis fondée sur quoi ? Sur des rumeurs. Et on vit Kabila là-bas, sans en apporter une seule preuve. C'est quand même grave ça. Nous continuons à croire que c'est des affabulations fabriquées par le pouvoir en place pour occulter leur échec dans cette gestion de la guerre. La mauvaise gouvernance, comme Joseph Kabila Kabange a vraiment pointé du doigt là où ça blesse. Alors il devient diable parce que simplement il a annoncé qu'il va parler, il a annoncé qu'il veut rentrer et apporter sa contribution, sa pierre, ce qui est dans ce communiqué. Le ministre de la Justice vous dit, il a fait injonction au procureur général de la République avant même que celui-ci n'envoie rien que des invitations aux gens pour répondre. Lui a déjà décidé. On devra saisir les biens meubles et immeubles. Par rapport à quel jugement ? À quelle enquête ? D'hypopulisme au sommet de l'État. Imbroglio total.
Le secrétaire permanent adjoint du PPRD avec Pascal Moulégois, les soutiens de Joseph Kabila l'assurent. L'ancien président va s'exprimer prochainement. On ne sait pas s'il compte réagir à ses poursuites judiciaires ni à la suspension de son parti. En tout cas, ces mesures prises par le pouvoir congolais sont à lire sous un angle politique. Ça, c'est l'analyse de Christian Dombo Moleka. Il est coordinateur de la dynamique des politiques de RDC.
À ce stade, le gouvernement n'a pas présenté des éléments qui puissent étayer le rapprochement entre Kabila et M23, si ce n'est les déclarations du chef de l'État et de ses différents ministres. Quand on prend l'option, par exemple, de suspendre le parti PPRD parce que le président du PPRD a pris une position, c'est une mesure très forte. Est-ce que le parti est lié à la position de Kabila ? Est-ce que quand on prend les biens, on saisit tous ces biens ? Est-ce que c'est à la suite d'un jugement ? Est-ce une décision unilatérale du ministre de la Justice ? Ce sont à la fois des leviers politiques difficilement justifiables d'un point de vue juridique quand on voit la procédure qui est mise en place, mais qui vise absolument à neutraliser un adversaire politique. On le sait, Kabila est dans une dynamique de retour, et les retours politiques pour beaucoup de, je dirais, d'affider la famille du président actuel, il faut en finir totalement avec lui, et donc ça peut être une stratégie de neutralisation politique d'un adversaire.
Propos recueillis par Sidi Yansané. L'opposition et le pouvoir en Centrafrique vont-ils se mettre autour d'une table pour discuter? L'entourage du président Touadéra dit formellement oui, c'est une information RFI. Le ministre conseiller spécial du président, Fidel Gwanjika, l'annonce ce matin sur notre antenne. Entretien à écouter en intégralité juste après ce journal. Le gouvernement du Tchad, lui, est parvenu à un accord avec le comité d'autodéfense de Miski. Voilà 7 ans que les tensions ont éclaté dans le Tibesti, tensions autour des richesses aurifères de cette région montagneuse et qui avait même débouché sur un conflit armé pendant plusieurs mois. Malgré le cessez-le-feu conclu en 2019, la question de l'exploitation des mines n'avait jamais vraiment été réglée, et ce malgré les multiples tentatives de négociation. Mais cette fois, ça y est, Victor Moria, les parties réunies à Bardaï, le chef-lieu du Tibesti, se disent satisfaites des termes de l'accord.
Outre l'amnistie générale pour tous les membres du comité d'autodéfense de Miski, comme pour ceux des forces tchadiennes de défense et de sécurité qui ont participé aux affrontements en 2019 et 2020, tous les permis d'exploitation minière et toutes les exploitations en cours sont suspendus dans la zone de Miski et ses environs en attendant les conclusions d'études cartographiques à venir dans les 6 prochains mois. Jimé Chaha, président du comité.
Après plusieurs initiatives de négociations échouées, le comité d'autodéfense de Miski croit aujourd'hui au contenu de l'accord négocié. Il revient maintenant aux deux parties de respecter les engagements pris. Nous ne sommes pas des bandits, notre action était mûrement réfléchie. D'après les termes des accords, nous avons foi en la volonté du gouvernement de dialoguer. Nous allons donc, nous aussi, nous mettre autour de la table.
Les négociations ont été menées avec l'appui de diverses personnalités locales et nationales, comme l'ancien ministre Adoum Younousmi, et c'est le médiateur de la République, Saleh Kebzabo, qui a signé l'accord pour le gouvernement.
C'est une signature qui nous oblige, et c'est donc un engagement pour nous et pour le comité de respecter tous les termes de cet accord et nous en prenons l'engagement. Il faut en effet que cet accord soit appliqué pour qu'il ramène la confiance au sein des populations.
Victor Moria, de retour de Bardaï, RFI.
Les forces gouvernementales du Soudan du Sud ont repris la ville de Nassir, déclaration hier de l'armée. Cette ville de l'état du Nil, dans le nord du pays, est l'épicentre des tensions depuis plusieurs semaines entre le pouvoir et l'opposition. Le président Salva Kiir accuse son vice-président et rival Riek Machar d'y fomenter des troubles avec l'aide d'une milice locale. Les États-Unis pourraient bien se désengager du continent. Sinon, d'après les informations de nos confrères du New York Times, le département d'État américain s'apprêterait à supprimer purement et simplement son bureau Afrique pour le remplacer par un bureau de l'envoyé spécial pour les affaires africaines. Il serait alors sous la supervision de la Maison Blanche. Selon le projet, toutes les ambassades et les consulats considérés comme non essentiels en Afrique subsaharienne seront fermés. Les détails à lire sur RFI.fr. Et si les États-Unis réduisent la voilure sur le continent, le FMI et la Banque mondiale, eux, tentent de poursuivre leurs activités dans un contexte budgétaire et économique pour le moins compliqué. Les réunions de printemps s'ouvrent aujourd'hui à Washington, rendez-vous annuel des institutions de Bretton Woods. Cette année, il est placé sous le signe de l'emploi et particulièrement de l'emploi des jeunes en Afrique. Charlotte Cosset.
40% de la population du continent africain a moins de 15 ans. Des jeunes qui vont avoir besoin de débouchés, insiste Ajay Banga, le président de la Banque mondiale.
Au cours de la prochaine décennie, 1,2 milliard de jeunes entreront sur le marché de l'emploi dans les pays en développement. Actuellement, on prévoit que ces pays créeront 420 millions d'emplois. Ce fossé n'est pas seulement une question économique. Je pense qu'il s'agit là d'un risque mondial. Car sans opportunité, les menaces liées à la fragilité, aux migrations illégales et à l'instabilité se renforceront.
La Banque mondiale a par exemple mis en place le laboratoire de l'investissement privé, aujourd'hui composé pour l'essentiel de banques et d'institutions financières. Ce groupe va être élargi.
Nous allons élargir sa composition pour y inclure les secteurs qui, selon nous, sont les plus importants pour la création d'emplois. Il s'agit de l'énergie et de ses infrastructures, de l'agroalimentaire, de la santé, du tourisme et de l'industrie manufacturière. Nous passons des essais à la mise en œuvre. Ce travail est intégré dans l'ensemble de nos activités. Nous le lions directement à notre agenda pour l'emploi. C'est au cœur de notre stratégie.
Ces derniers mois ont été marqués par la baisse de l'aide publique au développement et la coupe brutale de l'USAID, une évolution qui incite d'autant plus les institutions à se tourner vers le secteur privé et la philanthropie.
Charlotte Cosset du service économie de RFI. En bref, Emmanuel Macron a atterri à Mayotte. Le président français entame aujourd'hui une tournée dans l'océan Indien, tournée qui va l'emmener à La Réunion, puis à Madagascar, où il participera au sommet de la commission de l'océan Indien avec Ange Radzoel, son homologue malgache. Le chef de l'État va notamment évoquer le dossier brûlant des îles éparses et des restitutions d'ossements humains datant de la colonisation. Ce sera le dossier du journal de 7h, temps universel avec notre envoyé spécial sur place. À l'écoute de RFI 5h39 en temps universel. Certains sont allés à la messe, d'autres se sont réunis en famille. D'une manière ou d'une autre, les chrétiens du monde entier ont fêté Pâques hier. Le pape François a fait une apparition sur le balcon de Saint-Pierre un mois après sa sortie de l'hôpital. Au Gabon aussi, on célébrait cette fête qui symbolise la résurrection de Jésus. Après la messe, les Libreville-ois ont fêté cette journée en famille et les pieds dans l'eau. Reportage Yves-Laurent Gomain.
Sous un beau soleil et sur le sable fin de la plage de Libreville, ces Béninois venus en famille boivent et mangent pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ.
Depuis 24 ans, on attend le ressuscité. Il est ressuscité aujourd'hui. On se réjouit.
Vous êtes content?
Très très content, plus que le mot.
Il est le Dieu vivant.
Plus loin, Larissa et ses sœurs ont étalé des pagnes sous un arbre.
Le Seigneur a dit dans Exode que c'est la première chose que nous allons faire pour nous rappeler de notre sortie et de notre libération de l'Égypte.
Sous la plage bondée de monde, la joie est au rendez-vous.
Il y a la joie.
Pourquoi il y a la joie?
Parce que nous sommes non seulement en train de célébrer un an de plus pour ma fille, et puis la résurrection de Jésus aussi.
Nous sortons aussi d'une élection présidentielle qui s'est passée dans le calme et la joie. Donc nous célébrons la fête du bon Dieu.
Nous allons bénir Dieu pour le repas du jour.
De leur côté, monsieur et madame Outou, ainsi que leurs quatre enfants, ont partagé leur repas à la maison dans la sobriété.
Nous nous réjouissons de ce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et nous pouvons manger ce repas parce que le Seigneur s'est donné et il est revenu à la vie.
Le christianisme est la religion dominante au Gabon, pays laïque qui pratique la tolérance religieuse. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
On part pour la Côte d'Ivoire avant de refermer ce journal. Clap de fin pour le FEMUA, on vous l'a fait vivre sur RFI. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo s'est achevé hier à Daloa, dans le centre-ouest du pays. Caris, Imra et José ont partagé la scène du stade municipal hier soir. Reportage de notre chanceux envoyé spécial Guillaume Thibault.
Quand la population entonne l'hymne national, la fête est forcément belle. Monsieur et Madame Thiam, comme beaucoup, sont émus.
Il faut dire que avec ce qu'on a connu comme crise, déjà c'est vraiment une fierté. Ça ressemble aux Ivoiriens. Toujours plein d'amour, plein de joie. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci beaucoup.
Je suis ému, je suis ému. Vraiment merci à la Côte d'Ivoire.
Madame Koné est venue avec enfants et petits-enfants voir le FEMUA à Daloa est pour elle une leçon pour les jeunes générations.
C'est une très belle chose parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de spectacle. L'organisateur du FEMUA doit être un exemple pour la jeunesse, pas de la Côte d'Ivoire, hein, du monde entier.
Je suis tombé fond, t'as des bains. Je suis tombé fond, il t'a laissé. Rumba!
Le stade de Daloa, plein à craquer, la foule vibre, profite de ces rares moments comme Mélissa et Eliane.
Voir le FEMUA ici à Daloa aujourd'hui, c'est un plaisir, c'est un réel plaisir. Voir que nos artistes qu'on kiffe sont là, vraiment c'est waouh.
Guillaume Thibault, Daloa, RFI.
Rumba Asakata, Asakuma, Asakata, Asakata, Asakuma.
Et d'un festival à un autre, dans le prochain journal, on vous emmène en Centrafrique pour la quatrième édition du TI Festival. Mais d'ici là, eh bien, vous avez rendez-vous avec Andréane Mellard pour la suite des RFI Matin.
Merci Arthur Ponchelet pour l'information africaine. On vous retrouve pour un prochain journal, Arthur, dans 20 minutes. Nouvelle